7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines et les voisins, ravi de vous retrouver pour presque une heure d'échange sur un sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre genre. Aujourd'hui, les voisins, nous allons parler éducation avec l'orientation scolaire des filles. Les femmes composent la moitié de la planète, un peu moins paraît-il de la moitié maintenant, et elles participent à l'économie de leur foyer et donc plus largement de leur société au pluriel, et pourtant sont très peu nombreuses à des postes de pouvoir et de responsabilité. Alors, trop faibles, pas assez ambitieuses les femmes? Et si c'était une question d'orientation? Alors justement, comment sont orientées les filles? Les statistiques publiques françaises montrent clairement que les filles sont moins souvent en retard scolaire que les garçons, quel que soit le milieu social d'origine, qu'elles sont plus nombreuses à obtenir le bac que les garçons et qu'à la sortie du système scolaire, elles sont plus diplômées que leurs comparses. Alors qu'est-ce qui coince, culture ou nature? Ce constat d'une orientation des femmes qui laisse à désirer, nos deux invités l'ont fait, les voisins, et elles ont décidé d'agir à travers les associations qu'elles ont créées ou contribuent à créer. Elles accompagnent des jeunes femmes sur le chemin fragile de leur épanouissement professionnel. Bonjour Atina Marmora.
Bonjour Anastasie.
Fondatrice de l'association Révèle, que vous avez créée en 2013. Et bonjour Diane Lazrak-Toub.
Bonjour Anastasie.
Co-fondatrice de l'association WeTalk. Il y a les invités, leurs actions sur le terrain, et il y a vous, les voisins, vos avis, vos questions et réactions nous sont précieux. N'hésitez pas à partager avec nous votre point de vue au 33 1 84 22 71 71. Atina Marmora, une statistique tout de suite sur laquelle je voudrais avoir votre réaction. En Europe, plus des deux tiers des femmes occupent 10 ensembles de métiers. Ces métiers sont concentrés dans le care, donc le soin, l'enseignement, la culture, comme si ces espaces étaient des chasses gardées féminines. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense qu'il y a quand tu parles de culture, je pense que les filles, quand elles grandissent dans la famille, souvent elles ont des responsabilités de l'ordre familial, de s'occuper des frères, des sœurs, elles ont le modèle de leur mère et du coup spontanément quand elles grandissent, quand elles ont un choix de faire en termes d'orientation, ben naturellement elles disent la plupart qu'elles veulent aider et ce qui fait que ça impacte leur choix d'orientation et qu'elles se dirigent souvent vers des filières dans le social,
donc
le médical.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au fond, l'éducation les forge, les prépare, puisque au sein de la maison, il est valorisé qu'elles aident. Puisque c'est valorisé à la maison, ça doit être pas mal plus tard. C'est leur zone de confort.
C'est leur zone de confort et du coup spontanément elles vont plus se diriger vers ça que vers des carrières scientifiques par exemple.
Pourquoi avez-vous créé Révèle en 2013, Atina Marmora?
Alors, c'est parti d'un constat. Donc moi, à la base, je suis formatrice depuis maintenant quelques années et consultante en insertion et orientation professionnelle. Et donc, j'interviens pas mal dans des lycées en zone urbaine sensible. Et quand je questionnais les jeunes filles sur qu'est-ce qu'elles se voyaient faire plus tard, souvent c'était les mêmes métiers qui revenaient. Donc c'était puéricultrice, assistante de direction, c'était faire du social. Et en fait, quand je questionnais sur les choix, souvent c'était parce que autour d'elle, ces métiers étaient présents. Et il y avait aussi une méconnaissance de toutes les autres possibilités de métiers qui pouvaient exister. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait pas mal d'autocensure. Donc quand je leur parlais de postes avec un peu plus de responsabilité,
comment elles réagissaient?
Non, je crois pas que c'est pour moi. J'y avais même pas pensé. Je m'en sens pas capable. Donc il y a aussi un manque de confiance de ces jeunes filles. Et je crois qu'aussi, surtout, c'est un manque de ce qu'on appelle, nous chez Révèle, des rôles modèles. C'est-à-dire des femmes qui ont ces postes-là et qui du coup vont quelque part leur montrer que oui, c'est possible, une femme peut être journaliste, hein, tout simplement, que c'est à leur portée, qu'une femme peut avoir des responsabilités dans une entreprise, qu'une femme peut être chef de chantier. Donc l'idée, c'est aussi de casser les préjugés et les représentations que ces filles ont.
Alors, ce que vous faites, ce n'est pas seulement leur montrer ou leur nommer des rôles modèles, mais vous les faites rencontrer.
Voilà.
Et c'est le plus important.
Alors, Dans les parcours révèle, hein, donc c'est des parcours d'une semaine où on va regrouper à peu près 25 jeunes filles
âgées. Quel âge ont-elles ?
Ça va de 16 à 22 ans aujourd'hui. Donc là, je suis en plein parcours. Hein, on a 24 jeunes filles. Ça va de la troisième à la seconde année post-bac, universitaire.
Donc en plein dans les grands moments d'orientation.
Exactement. Et 15 villes d'Île-de-France représentées. Donc une vraie diversité dans le groupe. Et en fait, le parcours révèle, c'est une approche pédagogique dans laquelle on part du postulat que les jeunes filles ont la réponse à leurs questions.
Elles sont la réponse à leurs problèmes, à leurs problématiques.
Exactement. C'est juste que nous, on va créer un cadre avec notre approche, notre méthodo, qui va leur permettre d'apprendre à mieux se connaître. Parce que quand on fait un choix d'orientation, il faut d'abord savoir qui je suis pour savoir qui je veux être. Et tant qu'on ne sait pas qui je suis, on choisit des voies qui sont parfois pas du tout en cohérence avec son potentiel. Oui. Et donc nous, notre idée, c'est de créer l'étincelle, de les aider à se découvrir et de prendre confiance en elles avec le groupe comme ingrédient quand même, la force du groupe, les rôles modèles qui viennent et qui parlent d'elle en tant que femme et pas seulement en tant que moi directrice d'eux,
en tant que professionnelle qui ont réussi,
pas seulement
avec cette spécialité, cette spécificité du genre.
Voilà, c'est moi importante. En tant que femme, en tant que jeune fille, comment j'ai vécu cette orientation et qu'est-ce qui a fait qui dans mon parcours fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Et on parle aussi beaucoup de la question du pouvoir d'agir. Vous me coupez, hein, Anastasie, tu me coupes parce que moi, quand je suis partie.
On vous écoute avec attention.
On parle de la question du pouvoir d'agir. En fait, ce qu'on veut faire passer comme message, que les filles prennent conscience qu'elles, c'est elles qui font leur propre choix.
Elles sont maîtresses de leur destin.
Elles sont maîtresses de leur destin. Et donc, elles font le choix de faire ou de ne pas faire.
Diane Lazrat-Toub, ce mot prononcé par Atina Marmora tout à l'heure de confiance, j'imagine que c'est aussi ce que vous voulez insuffler aux jeunes filles que vous réunissez dans le programme Girls.
Oui, tout à fait. Pour redonner un petit peu le contexte du programme Girls, il s'inclut en fait dans le cadre de l'association WeTalk, qui à la base est une mise en valeur.
Qui est une jeune association.
Qui est une jeune association. On a créé notre premier événement le 7 juin 2014. Mm-hmm. Donc l'an dernier, on a fait le premier événement donc sur le thème donc ne pas faire sienne les limitations des autres, où on avait 8 modèles féminins présentés par 8 ambassadrices qui sont venues se raconter leur parcours. Et en fait, suite à cet événement, on a senti que justement il y avait un public qui n'était pas forcément présent lors de ces rencontres, cette rencontre très inspirante, c'était les jeunes femmes et les jeunes filles qui justement n'ont pas forcément eu accès à cet événement pour pouvoir justement, Atina parlait de pouvoir d'agir, on est vraiment nous dans cette optique-là de célébrer l'action au féminin pluriel et célébrer le pouvoir d'agir à travers le WeTalk Event, et on avait envie d'aller à la rencontre de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles, pour justement leur parler de ce pouvoir d'agir, de cet empowerment. Ça, c'est vraiment un mot-clé au sein de WeTalk, c'est-à-dire que...
En français dans le texte.
En français, c'est en une phrase, c'est-à-dire se dire qu'aujourd'hui, les solutions, on les a en nous-mêmes, qu'on a toutes les clés pour comprendre, pour réfléchir à sa propre condition et pouvoir s'élever dans sa vie, dans sa société, dans son contexte. Donc c'est ça l'idée, de se dire que voilà, c'est vraiment résolument positif.
Et ce programme Girls s'adresse à des jeunes filles qui ont entre quel âge et quel âge ?
Alors le programme Girls, en fait, nous c'est sur une journée.
Oui.
Vraiment notre objectif, il était plus restreint. L'idée, c'est de dire de donner ce pouvoir d'agir là aux jeunes femmes de 16 à 24 ans qui viennent. Une journée très concentrée avec à la fois ces jeunes femmes, les animatrices, mais aussi des modèles féminins de l'an dernier qui étaient venus. Donc on avait Béatrice Barbus, qui est la première femme.
Non, des modèles.
Voilà, qui était venue. Et donc l'idée, c'est que ces jeunes femmes puissent réfléchir, non pas à leur propre orientation, on n'est pas là pour les aider dans leur orientation, mais plutôt de façon plus générale à la notion de parcours scolaire, parcours de vie, à comprendre un petit peu les barrières qu'elles ont aujourd'hui pour pouvoir essayer de les dépasser et de réfléchir sur 10 ans, sur 20 ans.
Donc chez WeTalk, on réfléchit beaucoup et on travaille plutôt sur la perception de soi, savoir se situer pour mieux s'orienter. Vous avez des démarches donc complémentaires. Voyons ce qu'en pensent les voisins. Je vous propose, mesdames, d'aller à Bobo Dioula. C'est au Burkina Faso. Un voisin, Ange, a des choses à nous dire. Bonjour Ange.
Bonjour Anastasie.
Nous vous écoutons Ange, vous êtes le bienvenu.
Oui, merci. Pour moi, la femme ne doit pas avoir des études avancées. Je crois bien que le minimum d'instruction est largement suffisant pour elle.
Ah, c'est intéressant.
Ici, au Burkina Faso, par exemple, une femme bureaucrate ou technocrate,
oui.
C'est vrai que sur le plan financier et intellectuel, elle est posée, mais qu'en est-il du social?
C'est-à-dire?
Ces femmes qui ont en réalité de grands diplômes et grands postes dans l'emploi, la plupart du temps, elles ont de sérieux soucis sur le plan social.
Qu'est-ce que vous entendez par plan social?
Sur le plan social, je parle du foyer.
Oui.
Sur le plan familial, concevoir une famille. Parce que ces femmes-là ont du mal à avoir un foyer stable et la plupart du temps, elles voltigent de divorce en divorce. Aujourd'hui, elle est mariée, demain, elle est divorcée. Et si on essaie d'approfondir l'analyse, elle tente chaque fois de tenir tête à son mari.
Ah.
Aussi, ces femmes qui ont de gros emplois, ces femmes bureaucrates, à longueur de journée dans les bureaux, elles se font tripoter, soit pour avoir une promotion, soit pour avoir des offres encore plus juteuses. Est-ce que dans ces conditions-là, en réalité, elles peuvent rendre un homme heureux? Moi, je crois que non. Le minimum parcours scolaire de la femme est satisfaisant. Lire, écrire et à la rigueur, un petit poste dans l'administration. Parce que chez nous, on a l'habitude de dire que la plus grande aspiration d'une femme, c'est d'avoir un foyer, beaucoup d'enfants et non un parcours d'élite. C'est mon point de vue.
C'est votre point de vue et merci de l'avoir partagé avec nous. Ange, je vais me tourner vers nos deux invités qui, vous pouvez vous en douter, ne sont pas forcément sur la même ligne que vous. Atina Marmora, que vous inspirent les propos d'Ange? Alors, une femme instruite, c'est une femme entêtée face à son mari, socialement fragilisée, et qui en plus use et abuse de la promotion canapé. C'est ça que vous préparez chez Revel?
Alors, bien évidemment, pas du tout.
Mais en même temps, les propos d'Ange sont intéressants parce qu'ils disent aussi le pourquoi du frein, parfois, quant à une éducation poussée des filles.
Alors moi, ce que j'ai entendu dans le discours de ce monsieur
Ange,
bonjour Ange. Ce que j'entends, c'est qu'il y a pas, il y a des peurs en fait de votre part de justement quand une femme a des postes à responsabilité. J'ai senti que de votre côté, c'est la peur de qu'est-ce qui va se passer au foyer et quelles vont être les répercussions.
Qui va s'occuper de moi?
Qui va s'occuper de moi? Qui va s'occuper des enfants? Du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à votre avis, qu'est-ce que vous, en tant que comme vous pouvez faire pour qu'il y ait un équilibre et pour que les choses se passent bien, même quand une femme a des responsabilités.
Ange ?
Oui. Bon, une femme qui a des responsabilités, sincèrement dit, c'est vraiment compliqué. Parce qu'une femme qui doit aller au boulot à 7h30 et descendre à 18h, et même souvent elle est obligée de prolonger son temps, en réalité, qui va venir à la maison? La place de la femme, c'est la maison. C'est comme ça qu'on éduque les jeunes filles ici en Afrique.
Alors, ça dépend de quelle Afrique. Moi-même, je suis africaine et ce n'est pas comme ça que j'ai été éduquée. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Ange, pour dire que il y a autant d'Africains et de manières de vivre l'Afrique que d'individus, au fond, et que certains Africains ne se reconnaissent pas du tout dans vos propos. Diane, alors la place de la femme au foyer, qu'est-ce que vous répondez à Ange?
Ce que j'ai envie de dire, c'est que la femme est l'avenir de la société et qu'aujourd'hui c'est essentiel pour les femmes justement de pouvoir accéder à des postes à responsabilité, de pouvoir envisager une orientation large, faire des études universitaires. Mais la question que Ange pose, c'est la question de la conciliation vie pro vie perso. C'est une question cruciale, même en France aujourd'hui, de se dire aujourd'hui comment, quand on est une jeune femme et quand on a envie d'être médecin ou d'être chef d'entreprise ou avoir un poste à responsabilité, comment je vais pouvoir concilier cette question-là. Et justement, le 11 avril, lorsqu'on a eu cette journée avec les jeunes femmes, c'est une question qui est revenue sur la table, où on disait aux femmes, où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Et certaines disaient, Je me vois encore célibataire. Je préfère pas faire d'enfant tout de suite.
Oui.
Je préfère pas être maman.
Ajoute de l'eau au moulin de Ange en disant
alors,
cela.
Non. Alors, c'était pour prendre du recul. Attention, c'était l'idée de dire qu'aujourd'hui on se met aussi des freins parce qu'on a cette impression-là que ce n'est pas possible. Et en même temps, il y avait une jeune femme qui avait 24 ans, qui était en école de commerce et qui avait un enfant de 3 ans. Donc l'idée c'est de se dire, c'est comment nous, Atina, elle était juste de poser la question à Ange, de dire. Comment la société, comment on peut y arriver ensemble, comment les hommes, les femmes, la société dans son ensemble peut créer cet espace-là de conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Après, l'idée c'est aussi de revoir la question des rôles, la question de la place de l'homme et de la femme dans la société. Bon, clairement Ange parle de la place de la femme à la maison. Je pense que si on se place de son point de vue, qui est de dire que la femme éduque les enfants, je dirais justement. Parce que, pour reprendre son point de vue, si la femme éduque les enfants, autant qu'elle soit très bien éduquée, qu'elle ait fait des hautes études pour former justement l'avenir de la société, qui sont les hommes et les femmes de demain.
Voilà, Ange. Est-ce que vous êtes un peu convaincue? Est-ce que les témoignages et les réponses de nos deux invités vous ont fait un peu bouger ou vous restez convaincue qu'il y a quelque chose il y a comme un danger à laisser les filles aller plus loin dans leurs études?
Bon, je suis un peu convaincu, mais je pense que le danger reste quand même. Mais tout va dépendre de la femme maintenant,
bon.
De sa manière de penser. Si malgré ses études, malgré les diplômes qu'elle a, si elle connaît quand même la place que doit occuper l'homme dans le foyer et elle reconnaît elle-même sa place, je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de problème.
Très bien.
Mais si elle veut user de ses titres, bon, en ce moment, il y aura forcément problème.
Merci beaucoup, Ange, pour votre intervention et bonne journée à vous. À Bobo Dioulasso, les voisins, vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Ce sujet, évidemment, est concernant. 33 84 22 71 71. C'est le numéro qu'a composé une voisine parisienne. Elle s'appelle Amina. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour Anastasia, bonjour à vos invités. Et moi je voulais, le sujet que vous traitez aujourd'hui m'interpelle au plus haut niveau.
Bien sûr.
D'abord j'ai une fille de collégienne.
Oui.
Qui a des difficultés au niveau de son orientation scolaire. Et la deuxième chose c'est que je me suis rendu compte que sur le plan éducatif, au niveau des établissements scolaires,
oui.
L'orientation est donnée aux jeunes, maintenant que ce soit des filles ou des garçons, mais surtout des filles, selon leur classe sociale. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très grave. Parce que un jeune issu de milieu modeste ne se verra jamais proposer une orientation qui peut le rehausser. C'est toujours vers la cuisine, c'est toujours vers les sexes.
Est-ce que c'est tant une question d'aptitude? Est-ce que c'est pas lié à ses aptitudes aussi et à la manière dont il travaille? Vous pensez que non?
Je ne crois pas parce que j'ai eu à résoudre ce problème-là avec ma première fille.
Oui.
Puisqu'on était venu à l'époque j'habitais à Montreuil, j'ai déménagé à Paris et quand je suis partie à l'académie de Paris pour son inscription dans le secteur de Paris, ils m'ont dit le lycée que j'ai demandé, que c'est un lycée qui demande un bon niveau. J'ai dit c'est le cas parce que ma fille avait 15 de moyenne générale. Moi-même, je suis issu d'une famille où les études sont prises à bras le corps. Très au sérieux par mes parents. C'est pour ça que j'enchaîne avec Ange, qui dit que la place des femmes... Moi, j'ai un papa qui est décédé à l'âge presque centenaire de 100 ans,
oui.
Mais qui ne s'est jamais joué des études, que ce soit pour les filles ou les garçons.
Pour lui, les filles comme les garçons devaient étudier.
Il nous envoyait en France en couple, garçon-fille, faire des études. Il est mort centenaire.
Très
donc,
bien.
Ces idées qu'ils ont en Afrique, il faut qu'on les enlève.
Heureusement, tous ne les ont pas. Amina, je vous propose de rester ensemble. Le flash arrive, mais on se retrouve après avec les réactions de nos deux invités, dont j'imagine que vos propos les interpellent. Liberté, fraternité, égalité, des choix de vie dans 7 milliards de voisins. L'orientation scolaire des adolescentes en question, avec Atina Marmora de l'association Révèle et Jeanne Lazrek-Toub de WeTalk. Et vous, les voisins, avec vos questions et remarques attendues au 33 1 84 22 71 71, n'hésitez pas, on se retrouve après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Retour à 7 milliards avec un sujet éducation. Aujourd'hui, l'orientation scolaire des adolescentes. Avec nos deux invités, Atina Marmora et Jeanne Lazrak-Toub. Vous réagissez d'ores et déjà, les voisins, sur Facebook. Koumakoyan Djamena au Tchad nous dit « C'est vraiment difficile d'orienter les filles dans le métier de leur choix, mais c'est possible. Dans notre famille, ma demi-sœur n'était pas intéressée par l'école, mais elle aimait l'électricité. Elle a demandé à notre papa si elle pouvait suivre des études dans ce domaine. Mon papa a été contraint d'accepter et aujourd'hui, ma sœur est heureuse, réussit très bien ses études d'électricienne. Seydou à Kolda, c'est au Sénégal, nous dit que pour lui, l'école reste la solution. Il faut promouvoir la scolarisation, surtout des filles, pour donner à la nouvelle génération les chances de jouir de l'égalité des chances et permettre à nos sociétés de voir et d'accepter l'égalité homme-femme comme logique et non comme une entorse à la vie sociale. Evelyne Adouala nous dit « Il y a des métiers pour les hommes et d'autres pour les femmes. C'est vrai, aujourd'hui, certaines femmes peuvent faire des métiers d'hommes, mais pas toutes. Nous n'avons pas la même constitution physique, évidemment, que ça entraîne des différences. » Dernier témoignage de celui de Jean à Séoul. Il nous dit qu'il ne s'agit pas du tout du problème d'orientation scolaire, sinon cela serait aussi désavantageux pour les garçons. Jean continue en disant que le monde professionnel est une compétition. Si aujourd'hui nous avons des femmes chefs d'État, managers, professeurs, c'est bien que la femme aussi dirige. Le mal, c'est d'ignorer l'aspect compétition dès le milieu scolaire et vouloir avoir un nombre équitable de garçons et de filles premiers de leur classe. Il est inutile de se focaliser sur l'orientation ou le taux de scolarisation des femmes. Pour Jean, il faut améliorer le suivi scolaire et social de cette femme que la mauvaise conception du genre a toujours qualifiée d'inférieure à l'homme. Merci beaucoup aux voisins qui réagissent par Facebook. Vous pouvez continuer d'ailleurs de le faire. Et si vous venez de nous rejoindre, vous ignorez peut-être que dans la première partie, nous étions avec une voisine, Amina, à Paris, qui nous exprimait sa colère, sa grande colère face aux conseillers d'orientation qu'elle juge partiaux et dont elle juge que justement ils orientent les enfants selon leur origine sociale réelle ou supposée et pas selon leurs aptitudes. Je ne vous trahis pas, Amina?
Non, vous ne me trahissez pas
bon,
du tout.
Très bien, alors je vous propose qu'on écoute les réactions d'Atina et Jeanne. Est-ce que ce sont des propos que vous entendez auprès des jeunes femmes que vous accompagnez, cette orientation scolaire qui laisse à désirer? Les rappeurs en parlent, hein. Ils appellent les conseillers d'orientation les conseillers de désorientation.
Oui, oui, alors c'est une réalité. Alors, il faut savoir qu'en France, on a un conseiller d'orientation pour 750 élèves. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui doit être posé.
Autant dire que c'est une mission impossible.
Exactement, c'est une mission impossible. Dans l'éducation nationale, on a un système qui fait que voilà, il y a des cases et il faut remplir les cases. Donc souvent, on va orienter. Alors moi, je suis intervenue beaucoup dans les lycées professionnels et on oriente des élèves en bac pro compta, des élèves et en bac pro compta gestion, des élèves qui ont des grosses difficultés en français et des grosses difficultés en maths. Donc oui, clairement, il y a un problème au niveau de l'orientation. C'est considéré un petit peu comme des voies de garage, oui. D'ailleurs, alors que c'est loin de l'être. Et en fait, pour moi, la solution à ça, c'est aussi l'information. C'est l'accès à l'information. Ce qu'il faut, enfin, et c'est ce que fait très bien madame, c'est le fait de déjà, il faut que les parents se mobilisent.
C'est
dans
le mot magique, la vigilance des parents. Ouais.
La mobilisation des parents dans le parcours scolaire de leurs enfants, d'être présents, de s'impliquer aussi. Alors moi, par exemple, pour parler de mon cas, mon père était dans les conseils de classe de la sixième à la première. Alors quand j'étais jeune, c'était pas marrant, mais en tout cas, il s'est impliqué. Donc moi j'étais déléguée de classe aussi, donc je vous raconte pas conseil de classe avec mon père en face, c'était très sympa. Mais en tout cas, ça montre qu'il y avait une implication. Et oui. Quand les parents sont là, les enfants sont soutenus et on peut pas leur dire n'importe quoi. Alors après, il y a les parents qui ont pas forcément les capacités de comprendre tout, de comprendre le système, de comprendre comment sont prises les décisions, qui eux-mêmes ne sont pas allés à l'école. Donc pour eux, c'est encore plus difficile, d'où l'intérêt d'avoir des relais, des associations de terrain qui travaillent avec les jeunes, qui sont là aussi pour conseiller les enfants et les parents. Donc oui, l'accès à l'information, beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est qu'une école de commerce, ne savent savent pas ce que c'est que l'université, de comment ça se passe. Donc la meilleure solution, c'est voilà, c'est de tenir informé, que les parents cherchent l'information sur Internet, qui quand leurs enfants ne savent pas, qui se bougent, et d'aller voir d'autres structures qui peuvent les accompagner quand ils ne savent pas faire.
Amina, c'est ce que vous avez fait, j'imagine.
Mais c'est ce que j'ai fait effectivement, parce que si je n'avais pas fait ça, oui. Ma fille qui fait une licence de bio aujourd'hui serait dans la cuisine.
Jeanne,
voilà. Oui. Tout simplement, elle voulait faire un bac S. Du fait qu'on venait d'une zone de ZEP qui était à Montreuil,
oui.
L'école, le lycée n'était pas accessible. Il a fallu que je me batte avec les notes qu'elle avait sur son bulletin et qu'elle puisse faire des cartes. Et elle fait la biologie aujourd'hui.
Vous dites que vous êtes battue. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été voir...
Parce que j'ai été voir l'inspection académique.
Oui.
Et ils m'ont dit, puisque c'est pour tout vous dire, c'était le lycée Ravel à la porte de Vincennes.
Oui.
Ils m'ont dit, il faut un bon niveau. J'ai dit, c'est le cas. Ils m'ont dit, mais vous savez, quand on dit bon niveau, j'ai dit, elle a 15 de moyenne générale. Et là, donc, là-dessus, ils ne pouvaient plus rien dire. La deuxième bataille que j'ai dû mener, c'était au sein du lycée même. Parce qu'elle voulait faire un bac S, pour eux c'était impossible du fait qu'elle venait de Z. Je me suis battue pour ça aussi, elle a eu son bac S et elle est partie à DICA. Donc c'est vraiment frustrant pour les parents, comme l'a dit votre invité, qui ne savent pas parler le français et oui. qui ne savent pas défendre leurs enfants. Mmh. C'est pour cette raison qu'on trouve des enfants à des orientations qui ne sont pas souhaitées et ça fait l'échec.
Oui, clairement, on sent qu'aujourd'hui, il y a un souci au niveau de l'éducation nationale. Il y avait une des jeunes filles qui était là le 11 avril, qui a tout juste 16 ans, qui a mis collège égale prison. On en vient à des extrêmes comme cela, oui. où on sent que vraiment les jeunes filles et les jeunes hommes aussi étouffent littéralement dans cette école qui les empêche de voir plus loin, de se projeter. Et clairement, il y avait une des jeunes filles qui avait envie de faire un bac scientifique et à qui on a dit non, tu ne feras pas un bac scientifique. Et on sent qu'il y a un manque d'informations, clairement par rapport à la question des moyens, comme disait Atina. Il y en a une jeune fille aussi qui était là, qui disait que elle avait eu mention très bien au bac,
oui.
mais qu'on lui a pas dit qu'elle pouvait faire Sciences Po. Parce que quand on a mention très bien au bac en France, on peut aller faire Sciences Po directement. Et c'est des choses qu'on n'informe pas, qu'on ne dit pas. Après,
qu'on n'est pas responsable aussi de soi-même et de sa carrière? Est-ce qu'on n'est pas censé aller chercher l'information, surtout quand on arrive à des années fin de lycée?
Mais c'est vrai que quand on a 16 ans et 17 ans,
oui.
il y a quand même un gros manque de confiance en soi. Ça, c'est aussi un des points importants qu'on a relevé, c'est que elles ont peur de ne pas réussir. Elles ont peur de ne pas y arriver. Il y a aussi une pression des parents, qu'ils soient éduqués ou pas éduqués. Les parents veulent que leurs enfants réussissent, ils ne savent pas vraiment comment, hein, mais ils veulent que leurs enfants réussissent, et donc il y a cette pression-là. Il y a même des parents qui poussent leurs enfants à faire scientifique, alors qu'elles ne veulent pas forcément faire cette filière-là. Donc, c'est tout un tas d'éléments qui font qu'on en vient à un système assez...
Qui, mis bout à bout, finissent par cette jeune femme qui vous dit école égale prison.
Voilà, collège égale prison.
Collège égale prison.
Donc, voilà, ce qui est important, c'est que les parents soient présents, soient derrière, et créer des échanges stimulants. Là, les jeunes filles, elles avaient besoin de ça, de se dire, de se retrouver et de pouvoir échanger.
Merci beaucoup, Amina, pour votre témoignage et bravo pour cette énergie maternelle.
Je voudrais bien avoir les coordonnées des deux invités. Merci beaucoup.
Nous vous les donnerons en fin d'émission. Restez à l'écoute. Les voisins, faites comme Amina et Ange en début d'émission. Appelez 33 1 84 22 71 71. Mais tout de suite, c'est la musique de Trey Songz, un jeune homme que les filles qui fréquentent les deux associations Revel et WeTalk doivent apprécier. Ça s'appelle Slow Motions. I know you got all dressed up for the club, waiting on me to come pick you up. Baby, ooh, when I saw you walking out the door, something more. Now I'm whipping straight back to the crib. Finna give you something that you won't forget. No, baby. Ooh, I just wanna get you out the clothes. Ooh, I just wanna see you dancing slow.
time to review. So tell me when you're ready. I'ma speed it up for you just for a second. Just for a second. Then I'ma slow it back down and keep it steady.
Claquement des mains significatif de Trey Songz dans 7 milliards de voisins sur RFI. Slow motions, le moins que l'on puisse dire, c'est que les jeunes femmes qui viennent, qui fréquentent et que nos deux invités, Atina Marmora et Diane Lazraktoub, entraînent, emmènent, forment, elles n'ont pas du tout envie de perdre du temps dans des mouvements lents. Elles veulent s'accomplir, elles veulent une orientation qui corresponde à ce qu'elles sont. Alors, quels sont les freins? On l'a vu un peu avec notre invitée Amina, ça peut être l'école, ça peut être la société, et ça peut être aussi une mauvaise information des parents. Voyons ce qu'en pensent nos autres voisins, comme Claude, à Paris, au 33 84 22 71 71. Bonjour Claude.
Bonjour Anastasie, je vous fais un coucou parce que le hasard fait que je vous connais bien. Vous avez travaillé sur les ondes d'Africa numéro 1.
Absolument. Avec grand plaisir d'ailleurs.
Et puis je connais aussi Amina qui fut un excellent conseiller économique et social de la République du Mali. Vous voyez, c'est vraiment le matin des hasards heureux.
Absolument. Vous êtes le bienvenu, dites-nous alors.
Ben, écoutez, j'ai écouté votre émission avec grand plaisir et j'étais tellement en colère que je me suis garé parce que j'étais au volant.
Ah, c'est
quand
une bonne chose.
L'intervention de Ange, parce que je voudrais déjà saluer vos deux invités et leur dire avec beaucoup de considération et beaucoup de respect que l'homme que je suis, l'Africain que je suis, n'a absolument rien à voir avec la posture du discours de Ange, parce que d'abord, on voit de plus en plus d'hommes africains, qu'ils vivent en Afrique ou qu'ils vivent en Europe, qui ont de plus en plus de considération pour la femme, pour son rôle, et qui considèrent qu'elle peut avoir la carrière qu'elle veut. Cela ne l'empêche pas d'être une excellente épouse et d'être une excellente mère. Et d'ailleurs, quand vous regardez souvent en Afrique, les structures économiques qui permettent à la famille de subsister sont souvent les structures qui sont mises en place par les mères de famille. Je suis pétrifié et en colère par le discours de Ange, et il y a un gros travail d'information et d'accompagnement à faire à certains endroits en Afrique, mais c'est pas le cas partout en Afrique. C'était mon témoignage de ce matin.
Merci beaucoup Claude. Donc on aura bien compris que vous désolidarisez des propos de Ange, mais vous conviendrez avec moi que l'intérêt justement d'une émission comme celle-là, c'est que plusieurs voix puissent s'exprimer et qu'on puisse dialoguer et échanger, même et surtout quand on n'est pas d'accord. Belle journée à vous et continuez de conduire prudemment.
Merci, au revoir Anastasie.
Au revoir Claude. 33 1 84 22 71 71, les appels se suivent et ne se ressemblent pas. Place à une femme prénommée Guillaume, on va à Tananarive, c'est à Madagascar. Manaona Tupko. Bonjour Guillaume, vous êtes une mère de 4 filles, femme au foyer. Et pour vous, l'éducation et l'orientation scolaire des filles est très importante.
C'est important parce que je le vis moi-même. Je suis l'épouse d'un homme d'affaires.
Oui.
J'ai eu la chance de faire des études. Donc effectivement, après 4 enfants, j'ai un peu laissé mis ma carrière entre parenthèses.
Quelles études avez-vous fait, Guillaume?
J'ai suivi une licence de langue étrangère appliquée et d'hôtellerie.
D'accord. Donc vous aviez largement de quoi être indépendante et travailler à votre propre compte.
Voilà, et pourquoi je témoigne aujourd'hui, pourquoi c'est important pour moi, premièrement bien sûr parce que j'ai 4 filles, mais aussi pour enlever la peur des hommes, puisque je suis dans une société un peu machiste quand même, c'est que je le vois bien que si mon mari, si je ne pouvais pas discuter avec lui, il serait quand même triste.
Il lui manquerait quelque chose.
Il a besoin de ce niveau d'éducation. Il a besoin de... C'est tout bénef pour lui. De temps en temps, je le conseille.
Oui.
Je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eu d'études.
Donc
si je n'avais pas fait d'études.
Mmh. Donc voilà, l'un des avantages nombreux à être une femme formée, qui a étudié, pour vous, c'est à la fois, enfin, quand on choisit de ne pas travailler, de pouvoir être quand même un partenaire actif de la vie professionnelle de celui qui a choisi de travailler dans le couple. Mais j'imagine que ça n'est pas le seul avantage dans lequel vous allez élever vos filles.
Avantage. Exactement. Et justement, il le voit ensuite, plus mes filles grandissent. Donc là, je me suis remise à travailler. C'est pour ça que j'insiste encore. Il faut que les femmes aient le choix. Et ce choix-là, de rester à la maison ou non, c'est aucun choix n'est disqualifiant. Je ne sais pas comment on dit.
Oui, mais vous l'avez dit.
Mais au moins, voilà, au moins, on a le choix. Donc là, effectivement, mes filles sont grandes. Je ne peux plus rester à la maison et je n'en ai plus envie. Et ben, j'ai une arme pour dire, bon, je vais aller, je vais travailler.
Très bien. Je vous propose qu'on fasse réagir nos deux invités. Atina Marmora, justement, en France, on se rend compte que les filles réussissent plutôt bien, plutôt même mieux que les garçons dans les filières générales. Et l'intérêt des filières générales, c'est qu'elles offrent un choix très large. Et pourtant, on se rend compte qu'au moment du choix, les restrictions arrivent et elles s'orientent toujours vers le care, l'enseignement, la culture. Qu'est-ce qui se passe ?
En fait, moi, ça fait maintenant 4 éditions du parcours Révèle qu'on fait, et ce que j'ai remarqué chez les filles, c'est qu'il y avait une certaine pudeur de l'ambition. C'est comme si elles ne s'autorisaient pas à se voir grandes. Et ce qui se passe dans ces parcours souvent, c'est que quand les autres jeunes filles, à travers les exercices, notamment on utilise beaucoup le photolangage, le regard de l'autre, quand les autres jeunes filles leur disent « mais moi je te verrais bien architecte, moi je te verrais bien pilote de ligne », alors là les autres filles se disent « ah ouais ?» Ok, donc du coup, je veux pouvoir me l'autoriser parce que dans le regard de l'autre,
ça existe. C'est là.
Donc voilà, c'est pour ça que je parle de pudeur de l'ambition. Et c'est pour ça qu'il faut aider ces jeunes filles à prendre conscience qu'elles ont les possibilités et qu'elles ont le choix. Hein, comme disait
Guillaume,
ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on peut faire ses propres choix.
Guillaume, est-ce que vous notez chez vos filles cette pudeur de l'ambition que souligne Atina Marmora ?
Je commençais à le noter, effectivement, et c'est étonnant. Et c'est pour ça aussi que mon mari m'a poussée à reprendre le travail. Parce qu'elle demande, ah, papa, qu'est-ce qu'il fait ? Et maman, qu'est-ce qu'elle fait ? Et donc, je lui dis, tu vois, elle se voit à travers moi, quoi qu'on dise. Et si je reste à la maison, elles disent souvent, oh, papa, il est jamais là, il travaille beaucoup. Mais maman, elle est tout le temps là, elle travaille pas. Et c'est simpliste, mais ça a commencé à les former comme ça. Et je lui ai dit, écoute, il va falloir que je travaille pour qu'elle voit que je peux faire autre chose que rester à la maison aussi.
Précisons quand même, pour toutes les femmes au foyer qui nous écoutent, que rester à la maison, quand une femme reste à la maison, elle ne se tourne pas les pouces, et que le travail domestique est un vrai travail. Il reste à le valoriser, mais c'est un vrai travail. Diane Lazrak-Toub.
Oui, ce que vient de dire l'auditrice, c'est très important, cette question aussi voilà du rôle modèle qui commence dès la maman auprès de la jeune fille pour lui montrer l'exemple. Que ce soit en termes dans différentes activités, que ce soit au niveau professionnel, au niveau associatif, et donc d'où la question de l'ouverture du champ des possibles. Et c'est ça aussi la question par rapport au manque d'ambition, c'est qu'en réalité on n'a pas de champ des possibles aujourd'hui. C'est assez restreint. On parle de bac scientifique, on parle de filière de droit, on parle de filière scientifique.
Au moins elles existent, elles peuvent être explorées, non ?
Mais en réalité, les jeunes filles ne savent pas ce qu'il est possible de faire, en réalité, les différentes filières, les différentes possibilités, et souvent elles se restreignent aussi par rapport à l'avenir, parce que tout à l'heure on parlait de la question de conciliation vie pro vie perso.
Oui.
On parle aussi, l'association parlait de plafond de mère. Aujourd'hui c'est aussi sous-jacent, même si elles n'ont que 16 ans et elles ne se voient pas déjà mère de famille, mais j'ai l'impression qu'elles intériorisent un peu ce côté, mais bon, quand même je veux être maman, avoir des enfants, donc bon, faut pas non plus que j'ai un travail qui me prenne trop de temps. Donc il y a cette notion là qui
ce tiraillement
qui est intégré, et c'est clair qu'aujourd'hui la société française ou africaine, parce que en France aussi ce problème est très prégnant, de se dire aujourd'hui moi qui veux être à la fois pleinement femme, pleinement professionnelle et pleinement mère, et aujourd'hui c'est clair que c'est pas forcément une trajectoire qui est vue comme une autoroute, c'est plus vu comme un chemin semé d'embûches.
Merci beaucoup, Guillaume, pour votre témoignage.
Merci de m'avoir écouté.
Et souhaitons que vos filles aient entendu votre intervention et qu'elles emboîtent le pas de leur maman.
Qu'elles aient surtout le choix de leur vie.
Mais voilà. Ça, j'imagine que vous y travaillez. Belle journée à vous, Atina.
Merci, vous aussi, au revoir.
Au revoir. 33 84 22 71 71, 7 milliards de voisins s'intéressent à l'orientation scolaire des adolescentes. Et le moins que l'on puisse dire, les voisins, c'est que ça vous intéresse, n'est-ce pas, Aimé, à Cotonou. Bonjour.
Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Aimé. Vous êtes à Cotonou, au Bénin?
Oui, madame.
Et nous vous écoutons.
Ok, je salue les invités. Je vous remercie pour la qualité du sujet que vous avez mis en débat.
Merci.
En Afrique, et plus précisément chez nous au Bénin, la femme est d'abord considérée comme réservée à la maison. Mais face à la modernité et vu les rôles très importants que les femmes jouent aujourd'hui dans le bien-être de la société, nos jeunes filles béninoises se lancent dans des formations ou études qui conduisent au métier dit réservé aux garçons. Nous enregistrons par exemple des filles dans les mécaniques, l'agriculture, l'électricité, les métiers industriels, militaires, etc. Mais elles n'arrivent pas à mesurer réellement les implications professionnelles et sociales de l'exercice de ces métiers sur leur propre vie. Elles se trouvent fréquemment entre le professionnel et le social et parfois sont obligées d'abandonner leur métier de base.
Pourquoi ? Parce qu'elles deviennent maman, parce que la famille ne suit pas. Qu'est-ce qui fait qu'elles abandonnent ?
C'est parce que le mari n'est pas consentant avec les conditions de l'exercice de ces métiers. On les oblige à abandonner pour rester plus social que professionnel.
Et mais précisons que vous travaillez pour une ONG d'orientation scolaire, donc vous êtes en contact direct et régulier avec ces jeunes femmes. Quels conseils leur apportez-vous quand elles vous disent « mon mari n'est pas d'accord pour que je continue la formation, il faut que j'arrête »
Non, le premier conseil que nous pouvons leur donner, nous leur demandons d'amener le mari en question.
Oui.
Et nous discutons avec le couple pour savoir qu'est-ce que le mari reproche à la femme par rapport à l'exercice de sa profession. Et ensemble, nous essayons de montrer au mari comment il peut conjurer la vie professionnelle de sa femme et la vie de couple.
Et quelle réaction avez-vous des hommes ? Comment réagissent-ils quand vous leur expliquez, quand vous leur posez ces questions-là ?
Il y a des hommes qui disent n'avoir pas mesuré entre-temps toutes les implications de la profession de leur femme avant de les prendre. Il y en a qui acceptent de consentir et que la femme continue l'exercice de la profession. Il y en a qui refusent.
Et dans les cas de refus, vous laissez les jeunes femmes partir sans essayer de, sans leur dire bon peut-être réessayer dans un an ou dans deux ans. Ce sont des refus définitifs.
Oui, nous, quand le mari refuse, ne pouvant pas aller à la dislocation de leur foyer, nous recommandons à la femme de s'inscrire pour un autre accompagnement. Elle se reconvertit. À ce moment-là, nous travaillons encore à nouveau avec le mari qui nous donne les professions qu'elle aurait souhaité que sa femme exerce. Et si dans la liste qu'il nous propose, la femme a aussi des métiers qu'elle aurait aimé exercer en ce sens-là, on essaie de voir comment on peut faire la réinsertion.
Très bien. Donc, on comprend bien avec votre témoignage, Aimé, que l'orientation scolaire des filles, selon les lieux, ça peut être aussi une question de négociation avec les hommes autour d'elles. Merci beaucoup. Belle journée à vous à Cotonou. Les voisins, on reste à Cotonou avec un dernier voisin. Il s'appelle Magloire. Bonjour, Magloire.
Ok, merci. Bonjour.
Alors, il nous reste très peu de temps, donc nous vous écoutons.
Non, j'ai été très, très passionné par l'émission.
Oui.
Et par rapport à l'éducation, je trouve que c'est nécessaire, obligatoire même, parce que bon, moi, je ne vous le cache pas, j'ai été très, très coureur de jupons. Et j'ai toujours eu honte d'être en compagnie d'une femme qui ne puisse pas parler un seul mot quand je suis avec mes copains, que nous sommes en train de discuter, qu'elle ne peut pas sortir un traître mot du français, quoi.
Donc pour vous, c'est plutôt voilà, valorisant, une jeune
moi,
fille instruite. D'accord.
Pour moi, c'est une humiliation et c'est pour ça que moi, mes bébés commencent, je commence par leur apprendre le français depuis le temps de leur maman. Hein.
Très bien, parce que vous estimez qu'une femme instruite, c'est valorisant et qu'au contraire, c'est humiliant de fréquenter une jeune femme qui ne l'est pas.
Très valorisant.
Très bien.
J'ai appris ma langue maternelle, par exemple, j'étais déjà en classe de troisième.
Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, Magloire. On aura compris que pour vous, une femme instruite, c'est une femme à fréquenter. Belle journée à vous. Il nous reste quelques minutes, 1 minute 30 à peu près, et quelques secondes, une poignée de secondes. Diane Lazrak-Toub, le mot de la fin.
Oui, je voulais réagir en fait à l'auditeur d'avant qui parlait de tiraillement par rapport aux femmes qui aimaient et leur mari qui refuse. Et je voudrais
rapidement
recontextualiser pour dire que justement ces jeunes filles, elles se retrouvent à 17, 18 ans, ou même à 20, 21, 22, et il y a des tiraillements énormes. En fait, elles ont,
c'est quelque chose qu'elles vivent aussi.
Il y a les parents qui soit les poussent vers telle ou telle filière, il y a la société qui leur donne cette idée de réussite financière à tout prix, la question de leur autocensure.
Elles sont très tiraillées. L'adresse de WeTalk, s'il vous plaît.
C'est wetalk-community avec un y.org.
Atina Marmora, l'adresse de Revel.
Alors on a un site Facebook,
oui.
Donc c'est Facebook Revel Asso et un Twitter aussi, compte Twitter Revel Asso.
Merci beaucoup à vous mesdames d'être venues, vous l'aurez compris, vous avez vu ce dont vous parlez, votre travail intéresse passionnément les voisins que je remercie beaucoup pour leur attention ainsi que l'équipe 7 milliards. Demain nous parlerons de la journée mondiale des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Restez à l'écoute des programmes de RFI, le journal arrive.